2. Aldarion et Erendis. La femme du navigateur. Meneldur était fils de Tar-Elendil, le quatrième roi de Númenor. Il était le troisième enfant du roi, car il avait deux sœurs qui se nommaient Silmarien et Isilmé. L'aînée des deux avait épousé Elatan d'Andunie, et leur fils était Valandil, seigneur d'Andunie, de qui, bien plus tard, descendraient les lignées royales des rois du Gondor et de l'Arnor en terre du milieu. Meneldur était un homme d'humeur amène, sans nul superbe, qui pratiquait plus volontiers les exercices de la pensée que ceux du corps. Il aimait d'amour tendre le pays de Númenor et tout ce qui s'y trouvait, mais ne se souciait guère de la mer qui de toutes parts le cernait, car son esprit le portait bien au-delà de la terre du milieu, au loin parmi les étoiles et les corps célestes dont il avait la passion. Et toutes les traditions des Eldar et des Edain concernant Ea et les espaces infinis qui environnent le royaume d'Arda, il les recueillait et les étudiait. Et son plus grand plaisir venait de l'observation des étoiles. Il avait fait bâtir une tour dans le Forostar, tout au nord de l'île, où l'air était translucide et d'où il pouvait, la nuit, scruter les cieux et observer tous les mouvements lumineux du firmament. Lorsque Meneldur reçut le sceptre, il quitta, comme se devait, le Forostar et s'en fut vivre à Armenelos, dans la grande demeure des rois. Il se révéla un roi bon et sage, bien qu'il ne cessât jamais de rechercher l'occasion d'enrichir sa connaissance des cieux. Son épouse était femme d'une grande beauté, et elle se nommait Almarian. Elle était fille de Veantur, capitaine des navires du roi, sous Tar-Elendil. Et quoiqu'elle-même n'aimât la mer et les vaisseaux guère mieux que la plupart des femmes du pays, son fils tenait plus de son père à elle, Veantur, que de Meneldur, son propre père. Le fils de Meneldur et d'Almarian était Anardil, illustre par la suite parmi les rois de Númenor, sous le nom de Tar-Aldarion. Il avait deux sœurs plus jeunes que lui, Ailinel et Almiel, dont l'aînée avait épousé Orcaldor, un descendant de la maison de Hador, fils d'Atholdir, lui-même proche ami de Meneldur. Et le fils d'Orcaldor et d'Ailinel était Soronto, dont il sera question plus loin dans le conte. Aldarion, car tel est son nom dans tous les récits, atteignit rapidement sa pleine vigueur et devint un homme de haute stature, fort et vigoureux d'esprit comme de corps, blond de cheveux comme sa mère, prompt au rire et de cœur généreux, mais plus fier que son père et déterminé en sa propre volonté. Tout jeune, il aima la mer, et son esprit s'était tourné vers les arts de la navigation et de la construction des navires. Il n'avait qu'indifférence pour les terres du Nord et passait tout le temps que lui accordait son père sur les rivages de la mer, et plus particulièrement aux abords de Roména, où se trouvait le principal port de Númenor, ainsi que les plus grands chantiers de construction navale et les charpentiers les plus experts. Son père, des années durant, ne fit rien pour contrarier sa vocation, satisfait qu'Aldarion trouvât de quoi mettre à l'épreuve sa jeune témérité et exercer son intelligence et sa main. Aldarion était tendrement aimé de Veantur, le père de sa mère, et il faisait de fréquents séjours dans la maison de Veantur, située sur la rive sud de l'estuaire de Roména. La maison avait ses propres quais, où étaient constamment amarrées de nombreuses embarcations légères, car Veantur ne voyageait jamais par les terres s'il pouvait le faire sur les flots. Et c'est là qu'enfant, Aldarion apprit à ramer, et plus tard, à manœuvrer les voiles. Et avant l'âge adulte, il était en mesure de commander un équipage nombreux pour voguer d'un port à l'autre. Et voici que Veantur dit un jour à son petit-fils « Analdilia, le printemps approche, et aussi le jour où tu atteindras l'âge d'homme. » Car en avril, Aldarion aurait 25 ans. « J'ai à l'esprit une manière de fêter dignement ce jour. Bien plus considérables sont les années que j'ai accumulées, et je ne pense point désormais avoir aussi souvent le cœur de quitter ma belle maison et les rives bénies de Númenor. » Mais au moins une fois encore, je voudrais voguer sur les flots de la grande mer et affronter les vents du nord et ceux de l'est. Cette année, tu viendras avec moi, et nous irons visiter le Mithland, et contempler les hautes montagnes bleues de la terre du milieu et à leurs pieds le vert pays des Eldar. Tu trouveras ta bienvenue là-bas, chez Círdan, le charpentier de Nef, et chez le roi Gil-galad. Parle-en à ton père. » Lorsque Aldarion mentionna ce projet à son père et lui demanda l'autorisation de partir à la faveur des vents printaniers, Meneldur hésita à lui accorder son congé. Il éprouva comme un frisson glacé, comme s'il pressentait en son cœur qu'il y avait là plus que son esprit ne pouvait concevoir. Mais contemplant le visage enthousiaste de son fils, il ne laissa rien transparaître de son appréhension. « Fais ce que ton cœur te dit, Onia, » répondit-il. « Tu me manqueras durement, mais tu pars avec Veantur pour capitaine et sous la bénédiction des Valar. Alors je vivrai en bon espoir de votre retour. Cependant, garde-toi de t'éprendre des grandes terres, toi qui dois être un jour roi et père de cette île. » Ainsi advint-il qu'un matin où brillait le soleil et blanchoyait la brise, en ce radieux printemps de la 725e année du deuxième âge, le fils de l'héritier du roi de Númenor appareilla de son pays. Et avant la tombée du jour, il vit l'île sombrer, toute chatoyante à l'horizon de la mer, et disparaître en dernier le sommet du Meneltarma comme un doigt ombreux sur les feux du couchant. On dit qu'Aldarion tint lui-même le journal de tous ses voyages en terre du milieu et que l'on conserva longtemps ses documents à Roména, bien que par la suite, tout cela devait se perdre. On ne sait pas grand-chose de ce premier voyage, sinon qu'il se lia d'amitié avec Círdan et Gil-galad, qu'il s'aventura loin au Lindon et dans les terres occidentales de l'Eriador et qu'il s'émerveilla de tout ce qu'il y découvrit. On ne le revit plus 2 ans durant et Meneldur était en proie à une grande inquiétude. Il est conté que si Aldarion tant tarda, c'est qu'il était avide d'apprendre tout ce qu'il pouvait auprès de Círdan sur l'art de construire et de manœuvrer les navires, ainsi que sur la manière d'ériger des murailles assez puissantes pour résister à la voracité de la mer. Quelle fut la joie à Roména et à Armenelos lorsqu'on vit le grand navire Númeramar, ce qui veut dire « aile de l'ouest », s'avancer sur les flots, sa voilure d'or empourprée par le soleil couchant. L'été tirait à sa fin et l'Erwan Talé approchait. Quand Meneldur accueillit son fils dans la demeure de Veantur, il le trouva encore grandi et ses yeux brillaient d'un plus fort éclat, mais son regard errait au loin. « Qu'as-tu vu, Onia, dans tes lointains voyages, qui aurait le plus marqué ton souvenir ?» Mais Aldarion, fixant la nuit en son orient, garda le silence. Finalement, il répondit, mais doucement, comme qui se parle à lui-même, « Le beau peuple des elfes, les vertes rives, les montagnes nimbées de brume, cet air d'ombre et de brouillard qui dépasse l'imagination, je ne sais. » Et il se tut. Et Meneldur sut qu'il n'avait pas livré toute sa pensée, car Aldarion s'était épris de la grande mer et d'un navire voguant seul, sans nulle terre en vue, porté par les vents et l'écume au poitrail, vers des côtes et des havres inconnus. Et cet amour et ce languir, jamais plus ne le devait lâcher jusqu'à la fin de ses jours. Veantur ne quitta plus Númenor pour naviguer au loin, mais il fit don à Aldarion du Númeramar. 3 ans s'étaient à peine écoulés qu'Aldarion priait qu'on le laissât repartir, et il fit voile pour le Lindon. Il resta 3 ans absent, et peu après, entreprit un autre voyage qui dura 4 ans, car on raconte qu'il ne se contenta plus de prendre terre au Mithland, mais qu'il se prit à explorer les côtes plus au sud, au-delà des embouchures du Baranduin et du Guathlo et de l'Angren, et il contourna le sombre cap de Ras Morthil et contempla la fabuleuse baie de Belfalas et les montagnes du pays d'Amroth, où vivent encore les elfes Nandorin. Et dans la 39e année de son âge, Aldarion revint à Númenor, apportant à son père des présents de la part de Gil-galad. Car l'année suivante, comme depuis longtemps, il en avait fait la solennelle annonce, Tar Elendil se dépouilla de son sceptre en faveur de son fils, et Tar Meneldur devint roi. Alors Aldarion fit taire sa passion et s'astreignit à rester chez lui quelque temps pour assister son père. Et durant ce temps, il mit en pratique le savoir gagné auprès de Círdan en matière de construction navale imaginant de son propre chef maint procédé nouveau, et il entreprit également d'envoyer des hommes à l'amélioration des ports et des quais, car il avait grand hâte de bâtir des navires plus importants. Mais le dur languir de la mer soudain le reprit, et il laissa Nouménor et repartit, puis repartit encore. Et il en vint à songer à des expéditions qui ne se pouvaient accomplir avec l'équipage d'un seul vaisseau. C'est pourquoi il forma la Guilde des Aventureux, laquelle devait gagner grand renom par la suite. Et à cette confrérie se joignirent les marins les plus hardis et les plus enthousiastes, et même des jeunes hommes originaires de l'intérieur des terres sollicitèrent leur admission, et tous ils appelaient Aldarion le grand capitaine. À cette époque, peu désireux de vivre à terre dans la ville d'Arménélos, Aldarion fit construire un navire pour lui servir d'habitation, et qui fut nommé pour cette raison Eambar. Et de temps à autre, il le prenait pour naviguer d'un port à l'autre, suivant le littoral de Nouménor, mais le plus souvent le vaisseau était mouillé au large de Tol Winen, un îlot de la baie de Roména qui avait été posé en cet endroit par Winen, la Dame des Mers. Sur l'Eambar se trouvait la salle de la Guilde des Aventureux, et c'est là qu'on conservait les journaux de bord de leurs grandes expéditions. Car Tar-Meneldur voyait, quant à lui, d'un mauvais œil les entreprises de son fils, et se souciait peu d'entendre raconter le détail de ses aventures, pensant qu'il semait la graine de l'agitation et de l'avidité pour de nouvelles terres. Et vers cette époque, Aldarion s'éloigna de son père, et il cessa de lui parler de ses grands desseins et de ses désirs. Mais la reine Almarian soutenait son fils dans tout ce qu'il faisait, et Meneldur se voyait contraint de laisser les choses aller leur train. Car les aventureux gagnaient en nombre et dans l'estime des gens, et on les appelait les Winendili, les amants d'Winen, et ils devenaient d'autant moins aisés de restreindre ou de critiquer l'action de leur capitaine. Les navires des Nouménoréens se firent alors toujours plus grands et de plus fort tonnage, jusqu'à pouvoir entreprendre des voyages plus lointains avec de nombreux hommes à bord et d'importantes cargaisons. Et Aldarion était fréquemment absent de Nouménor pour des durées prolongées. Tar-Meneldur s'obstinait à contester les projets de son fils, et il fixa des limites à l'abattage des arbres de Nouménor dont on se servait pour les constructions navales. Et Aldarion vint alors à songer qu'il pourrait trouver du bois d'œuvre en terre du milieu et chercher là-bas un havre pour la réfection et le radoub de ses vaisseaux. Et naviguant le long des côtes vers le sud, il s'émerveilla à la vue des forêts de hautes futaies. Et à l'embouchure du fleuve que les Nouménoréens avaient surnommé Gwathir, le fleuve ombreux, il fonda Vignalondé, le nouveau port. Mais quand près de 800 ans se furent écoulés à compter de l'avènement du deuxième âge, Tar-Meneldur ordonna à son fils de demeurer à Nouménor et de cesser un temps ses voyages vers l'est, car il désirait proclamer Aldarion héritier du roi, comme avaient fait les rois qui l'avaient précédé à l'âge qu'avait atteint l'héritier. Lors, Meneldur et son fils se réconcilièrent un temps, et la paix régna entre eux. Et dans la liesse et les fêtes, on proclama Aldarion héritier, en la 100e année de son âge, et son père lui décerna le titre et les pouvoirs de seigneur des navires et des havres de Nouménor. Or voilà que se rendit à Arménélos, pour assister au banquet, un certain Bérégar, qui vivait dans l'ouest de l'île, et vint avec lui sa fille, Erendis. Et la reine ne manqua pas de remarquer sa beauté singulière, telle qu'on en voyait rarement à Nouménor. Car Bérégar descendait de la maison de Béor par une ancienne parenté, encore qui n'appartint pas à la lignée royale d'Elros, et Erendis avait les cheveux noirs et une grâce élancée, avec les clairs yeux gris de ceux de son sang. Mais Erendis posa son regard sur Aldarion, qui passa devant elle à cheval, et pour sa beauté et sa noble prestance, elle n'eut Dieu que pour lui. De ce jour, Erendis fit partie de la maison de la reine, et elle gagna aussi la faveur du roi. Mais elle ne vit pas grand-chose d'Aldarion, qui s'occupait de l'aménagement des forêts, soucieux que dans les temps à venir, le bois d'œuvre ne vienne pas à manquer à Nouménor. Et bientôt les navigateurs de la Guilde des Aventureux commencèrent à s'agiter, car ils étaient mécontents de ne partir que pour des expéditions plus espacées et plus courtes, et sous le commandement de capitaines de bien moindre renom. Et lorsque 6 ans se furent écoulés depuis la proclamation de l'héritier du roi, Aldarion décida de reprendre la mer pour rallier la terre du milieu. le roi lui donna à contre-cœur son congé. Car Aldarion s'était opposé aux exhortations de son père qui l'incitait à rester à Nouménor et à chercher une épouse. Et il appareilla au printemps de l'année. Mais comme il venait faire ses adieux à sa mère, il aperçut Erendis parmi la suite de la reine. Et contemplant sa beauté, il pressentit la force qu'elle recelait en elle. Almarian lui dit alors, « Dois-tu donc t'éloigner à nouveau, Aldarion, mon fils ? N'y a-t-il rien qui puisse te retenir dans le plus beau des pays mortels ?»«
Pas encore, » répondit-il. « Mais en la cité d'Arménélos, il y a des beautés telles qu'un homme ne puisse espérer en trouver ailleurs, même au pays des Eldar. Cependant, les navigateurs sont gens déchirés, toujours en guerre avec eux-mêmes, et le languir de la mer me tient encore. »
Erendis crut que ces mots s'adressaient à elle tout aussi bien, et son cœur dès lors fut entièrement donné à Aldarion, bien que sans nul espoir. Pourtant, à cette époque, il n'y avait point d'exigence, au terme de la loi comme de la coutume, que ceux de la maison royale, et même l'héritier du roi, se choisissent une épouse uniquement parmi les descendants d'Elros Tar Miniatur. Mais Erendis croyait Aldarion trop noble pour elle. Et néanmoins, à dater de ce jour, nul homme ne trouva plus grâce à ses yeux, et elle congédia tous ses prétendants. 7 ans passèrent avant qu'Aldarion ne revienne, apportant avec lui du minerai d'argent et d'or, et il entretint son père de ses voyages et de ses exploits. Mais Meneldur dit
« Je t'aurais préféré à mes côtés que de recevoir de nouveaux présents en provenance des sombres terres. C'est là le rôle des marchands et des explorateurs, non pas celui de l'héritier du roi. Quel besoin avons-nous d'argent et d'or en sus, sinon pour en user par orgueil, là où d'autres choses feraient aussi bien l'affaire? La maison du roi a besoin d'un homme qui connaît et aime cette terre et ce peuple sur qui il est appelé à régner. »
Est-ce que je ne m'applique pas à l'étude des hommes chaque jour de ma vie ? Dit Aldarion. Je peux les mener et les gouverner à ma guise.
Dis plutôt de certains hommes, et qui ont même disposition que toi. Répondit le roi. Il y a aussi des femmes à Nouménor, à peine moins nombreuses que les hommes. Et hormis ta mère, que tu peux certes mener à ta guise, que sais-tu d'elle? Et pourtant, il te faudra un jour prendre femme.
Un jour, dit Aldarion. Mais pas avant que j'y sois contraint, et plus tard encore, si quiconque essaye de me précipiter dans le mariage. J'ai d'autres choses à faire qui me paraissent plus urgentes, car mon esprit y est dévoué. Froide est la vie d'une femme de marin, et le navigateur fidèle en son vouloir et qui n'est point assujetti au rivage va plus loin et apprend à mieux affronter la mer.
Plus loin, mais non avec meilleur profit, dit Meneldur. Et tu ne pars pas affronter la mer, Aldarion, mon fils. Oublies-tu donc que les Edain vivent ici sous la bénédiction des seigneurs de l'Ouest, que Winen nous est charitable, écossé et maîtrisé? Nos navires sont protégés, et il est d'autres mains pour les guider que les nôtres. Alors, rabats de ta superbe, ou bien la bénédiction ira s'épuisant. Et ne sois pas tenté de croire qu'elle s'étendra à ceux qui se risquent sans nulle nécessité sur les écueils des rivages étrangers ou sur les terres peuplées par les hommes de l'ombre.
À quelle fin cette bénédiction s'étendrait-elle alors sur nos navires ?
Dit Aldarion.
S'ils ne doivent accoster nulle part, ni s'aventurer en quête de ce que nul n'a encore entrevu. »
Il ne parla plus de ces choses à son père, mais passa ses journées sur le navire Eambar, en la compagnie des aventureux, à la construction d'un bâtiment plus grand qu'aucun de ceux qui avaient été lancés précédemment. Et il nomma ce navire Palaran, l'errant au loin. Mais il se trouva qu'Aldarion rencontrait souvent Erendis, et c'était la manigance de la reine. Et le roi, informé de ces rencontres, en fut troublé, bien que cela ne lui déplût point.
« Il serait plus généreux de guérir Aldarion de son impétuosité, dit-il, avant de lui laisser gagner le cœur d'une femme. »
« Mais comment donc le guérir, sinon par l'amour ? Répondit la reine.
« Erendis est encore jeune, dit Meneldur.
Mais Almarian dit
« La lignée d'Erendis n'a pas l'espérance de vie qui est allouée aux descendants d'Elros, et son cœur lui est déjà dévoué. »